Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous recevons aujourd'hui l'artiste Sandra Böschenstein. Artiste visuelle, elle est basée à Zurich où elle naît en 1967. Sandra Böschenstein étudie d'abord la philosophie et l'histoire de l'art à l'Université de Zurich, puis elle entame des études d'art à la Haute École des Arts de Berne, qu'elle achève en 1995. Elle a reçu de nombreux prix et bourses, par exemple l'Académie Schloss Solitude à Stuttgart, le Künstlerhaus Bethanien à Berlin, ou encore elle était résidente au Center for Interdisciplinary Research à Bielefeld en Allemagne. Nous recevons aujourd'hui Sandra Böschenstein au sein de l'exposition Beyond Language, qui réunit son travail avec celui de Maria Bußmann, dont nous avons parlé la semaine dernière. Le travail de Sandra Böschenstein questionne notre perception et notre mémoire à travers l'interaction entre dessin et langage. Dans l'exposition, elle utilise le dessin sur papier et in situ comme outil de questionnement épistémologique. Elle interroge la connaissance, la façon dont celle-ci est obtenue et la manière dont elle est validée. Sandra Böschenstein montre dans l'exposition plusieurs séries. D'une part, There are no weak paradoxes, qui date de 2022, Sonne und Nicht-Sonne, qui date de 2019-2020, et Monument, ainsi que Museum, qui sont des installations in situ, c'est-à-dire des dessins partiellement faits directement sur le mur et qui sont combinés avec des fils et que nous devons expérimenter dans l'espace pour pleinement le percevoir. Sandra, peut-être pourrait-on parler tout d'abord de ta série Sonne und Nicht-Sonne. Il s'agit là de dessins issus d'un cycle de travail qui comporte 65 dessins et dont tu montres ici un choix et qui sont formellement assez différentes les uns des autres, mais qui ont en commun qu'il s'agit là d'une superposition, d'une couche de craie grasse qui est ensuite recouverte par de l'encre et de laquelle tu as gratté pour révéler partiellement le dessin qui se trouve en dessous. Autre particularité de cette série, c'est que son titre est un titre qui est difficilement saisissable uniquement à l'oreille lorsqu'on l'entend, puisque Sonne und Nicht-Sonne sont des mots qui sont ici pour le premier souligné et pour les deux derniers barrés. Donc Sonne qui veut dire soleil en allemand et souligné. Puis le und qui veut dire et reste tel quel. Et ensuite nicht Sonne, pas de soleil et barré.
Grammaire fantôme.
Alors j'aime bien le titre de l'exposition Beyond Language. Parce que j'aime beaucoup le langage, mais j'aime de le laisser ou de le rendre en communication avec les images. Je pense qu'il y a dans notre culture une certaine hiérarchie entre le langage et les images, et j'aime bien de trouver des autres interactions qui sont au même niveau. Et ça, dans tout mon œuvre, j'essaie de trouver d'observer comment est-ce que le sens se produit entre le langage et les images. Je veux bien faire un commentaire sur ces mots barrés. J'aime beaucoup de trouver des différentes manières de faire voir le corps des mots. Parce qu'on ne s'occupe jamais du corps de langage, ou pas trop. Et quand, quand un mot est barré, il est toujours là. Et je pense que qu'on le voit, il y a sa présence, mais on lui retient le sens. On néglige le sens, mais il est toujours là. Et je pense que l'intensité augmente même. On est tellement c'est tellement attractif de voir quelque chose qui ne devrait plus être là.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu donnes un corps au mot au-delà du sens.
Oui, la présence physique du mot, et j'ai aussi des autres endroits dans ces expositions où je joue avec ça, qu'un mot peut disparaître ou être barré par une ligne qui est un fil et tout ça. Alors j'essaie prendre le mot et de le laisser entrer aussi dans le visuel, qu'il a une apparence, on peut le voir, il a un corps, il peut apparaître, disparaître, être barré ou devenir fragmentaire et tout ça. Et changer le sens qu'est-ce qui est sens d'un mot barré, tout ça, je pense que c'est énormément intéressant pour lui prendre un peu cette position sûre et dominante.
Et de apparente clarté.
Oui.
Tu brouilles aussi les pistes. Tu rends les choses plus complexes.
Oui,
par ce fait-là. Ces mots, on ne peut plus les aborder de manière linéaire, comme on est habitué.
C'est ça.
De gauche à droite. C'est d'un coup quelque chose de spatial et on est confronté à un sens multidirectionnel.
Oui, c'est ça. Et quand tu parles de ça, je rentre dans la question sur ce cycle. Et il y a par exemple un dessin sur lequel il est écrit die Sprache von hinten überrascht. Alors le langage surpris de derrière. Du derrière.
Tout à fait.
Et on le voit à l'envers. Alors, c'est déjà qu'on ne peut pas le lire tellement qu'on a l'habitude. Et il est dans un espace, on a l'impression que c'est un espace énorme et c'est flottant de cet espace comme un corps un peu perdu. Et j'aime bien aussi d'augmenter l'attention sur le langage, mais dans un autre niveau, et d'ouvrir et des différents niveaux, et comme tu as dit, aussi des différentes directions, et de le laisser entrer dans l'espace, parce qu'on ne pense normalement quand on lit, et c'est bien qu'il y a aussi ça qui nous sert à lire et à comprendre et de ne pas avoir attention sur son corps. Mais je pense que c'est important de le rendre sur le niveau aussi d'une image ou d'une présence dans un espace pour lui donner des autres, pour offrir des autres manières de l'interaction avec la perception ou de l'interaction avec les images et de créer des sens aussi multidirectionnels qui sont complexes et d'ouvrir d'autres architectures de sens. Et ce n'est pas un sens stable qui est intéressant pour moi, mais plutôt c'est un sens qui danse, qui trouble et qui attire aussi beaucoup d'énergie, peut-être un peu pareil comme le mot barré, parce qu'on ne peut pas le rendre aux stabilités. Il y a cette dynamique qui nous invite toujours à être part, parce qu'on ne peut pas se dire « oh, c'est fait ».
Oui, on peut dire que tu nous donnes des possibilités de voir les mots agir autrement.
Oui.
Habituellement, on est dans un contexte où les mots agissent de manière... Comment on les a appris à voir agir. Donc on a un rapport assez scolaire au langage, et d'un coup, dans ton œuvre, le mot apparaît d'une manière plus libre. Et on comprend qu'ils sont advenus au travers d'un autre geste. C'est pas la réflexion seule, c'est le faire qui les a fait venir. Peut-être on peut parler un peu de comment ces mots adviennent par rapport à tes dessins, qui sont des dessins très fines, très complexes aussi. On voit qu'il y a du temps qui est investi dans ces dessins-là. C'est des dessins très précieux, parce qu'on voit bien qu'il y a une superposition des couches. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup du palimpseste par rapport à cette série-là, parce que c'est des couches qui sont cachées et que tu révèles par le grattage, partiellement. Donc il y a ce rapport à l'apparition du mot. Enfin, peut-être on peut poser la question, qu'est-ce qui vient premier, le dessin ou le langage?
Oui. Alors, ce qui est central, que je cherche toujours des autres manières d'observer, de me laisser observer et de laisser les spectateurs observer comment le sens naît. La naissance du sens m'est très, très élémentaire, les premiers pas de la naissance du sens. Et pour ça, quand je travaille avec le langage, avec des mots, que j'aime beaucoup la langue, pour ça que je peux le faire aussi et de le laisser à l'arrière et de ne pas le mettre sur le stage et je mets le focus sur les actions de préparer le papier et puis de, comme tu as parlé des plusieurs couches et du palimpseste. Je fais par exemple un dessin en crayon qui me prend une ou deux journées, et j'aime beaucoup quand les œuvres ne sont pas homogènes, parce que je pense que c'est un problème dans notre temps, que toutes les images qui nous sont offertes sur les médias, ils sont homogénisés et ils ne font pas voir leur trait de naissance. Et ça, c'est même aussi dangereux. C'est pas intéressant et c'est un peu... Ouais, je doute. Et moi, j'aime bien de créer des images qui sont non homogènes. Ça veut dire que je commence avec quelque chose que j'ai décrit qui s'évolue très lentement. Et puis, de mettre une couche de blanc, de
la craie grasse,
tout va disparaître dans un brouillard. Alors je ne le vois presque plus, et puis je rentre avec une autre geste qui est très vite, par exemple avec un rouleau. Quand normalement on l'utilise pas directement sur l'œuvre, mais je tire tac dans une seconde, et alors je rends ensemble déjà des différents médias, des différentes subtilités de traces et des différentes vitesses sur un, et je les réunis sur dans une cohabitation sur un papier. Et j'aime bien ça parce que c'est plus proche de la complexité des actions qu'on peut avoir dehors, dans les rues.
Avec ce geste, donc peut-être on peut décrire ce qu'on voit aussi sur les pièces. Donc, par le fait que tu tires le rouleau et que tu as induit de manière... peu homogène, ça crée une matérialité qui donne une complexité au dessin. On se croit dans l'espace.
Oui.
Et puisque le rouleau fait plusieurs tours, et le premier tour a moins d'encre que le deuxième, il y a toujours une ligne horizontale qui crée un horizon.
Oui. J'aime beaucoup de travailler, d'inviter des autres qualités que je ne pourrais jamais inventer avec mes mains qui dessinent des années, qui savent dessiner avec les, même quand j'invite par exemple la densité du pain.
La densité de la peinture.
Oui, et son réaction quand je le mets avec ce rouleau, que je ne le mets pas dans une couche homogène, ça m'a fait des structures qui ont une similarité avec l'espace, avec l'espace, le ciel cosmique, oui. L'espace cosmique et ce que tu as dit avec le rouleau et la deuxième fois qu'il touche le papier, c'est vraiment intéressant, je m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on offrit aux yeux, qu'est-ce qu'on offre aux yeux et qu'est-ce que les yeux sont, comment est-ce qu'ils sont conditionnés? Et quand on en fait une ligne horizontale, quelque chose qui se joint, qui est un changement horizontal, nous sommes habitués de le lire comme horizon. Et si quelque chose a un horizon, on a tout de suite une profondeur de l'espace. Et j'aime beaucoup, c'est une offerte d'un geste très simple et je trouve que c'est très attractif d'inviter aussi des complexités qu'on ne pourrait jamais inventer à main et en volonté, mais qu'on peut les inviter à faire une collaboration.
Alors tu collabores dans cette série, comme tu viens d'expliquer, avec de la peinture que tu appliques, mais tu collabores aussi ici au sein de l'exposition avec l'espace même. Donc tu as fait deux installations in situ, une qui s'appelle Museum et l'autre qui s'appelle Monument, qui se trouvent dans deux coins différents, donc qui font à chaque fois l'angle, qui prennent à chaque fois l'angle de l'espace.
Oui, moi j'aime bien avec le monument qu'il a une certaine autonomie, il passe d'un coin à l'autre, et il dit au revoir, je viens d'ailleurs et je pars d'ailleurs, pardon, je passe dans votre coin et je m'en vais. Alors l'orientation de cette pièce n'est pas du tout en attention aux coopérations avec les axes de l'espace. C'est tout autonome, c'est anarchique d'un certain point de vue. C'est une apparence, un salut et il s'en va. Et l'autre, j'aime bien que c'est vraiment, il prend ce coin, le muséum. Il pense coin réel de ces espaces, cet espace qui est plus petit qu'un muséum, et que change l'échelle. Alors il y a des multi échelles dans cette pièce parce qu'il y a l'échelle du crayon 1:1, et puis il y a cette architecture qui est ce dessin très rudimentaire. Et j'utilise le point réel pour créer un espace grand que je dis que c'est un musée. Alors j'aime bien d'utiliser le point réel ou de s'en foutre.
Oui,
de s'en foutre de l'architecture, de seulement dire « Oh, par hasard, j'ai dépassé votre espace. »
Donc, il y a deux approches très différentes,
oui,
pour ces deux pièces. Donc, c'est important qu'on ait parlé, là, effectivement, de, oui, ce que tu viens de dire. Donc, il y a les musées qui collaborent avec l'espace et le monument qui passe par là.
Oui.
Qui a besoin de ce chemin-là, donc elle se fraye ce chemin,
oui,
et traverse tout simplement la maison Heilberg dans ce coin.
et ce que j'aime, c'est que normalement, le monument, c'est vraiment de occuper un coin. Je ne sais pas si c'est vraiment si c'est une collaboration, mais de occuper un espace. Et ça, parce que j'ai écrasé le mot et le T, qu'en français dit le mot, et ce qui n'est pas barré, C'est le numen, alors c'est ce moment divin, que c'est aussi ce jeu-là avec des différentes mentalités contre l'espace.
Oui, et oui. Donc ça nomme aussi assez bien comme... Une des questions qui sont très importantes dans ton travail, c'est comment est-ce que le sens advient-il ? Et là, on est donc avec le mot monument qui est barré avec M-O et T, donc le mot qui est barré, donc, du coup il devient très important, on ne voit plus que ça. Et au milieu, il y a le signe des dieux, le noumen, qui est donc ce moment heureux où quelque chose nous fait signe. Et ça, c'est assez beau, ça.
Et quand on déshabille le monument, quand il est au nu, il est surtout plus aussi dominant, mais c'est un nu, c'est un nous-mêmes, c'est un moment.
Et donc, voilà, il y a...
Le moment est aussi là-dedans.
Oui, le moment est aussi dedans. Ouais. Et quand on est devant, effectivement, par moments, c'est barré à d'autres endroits aussi, parce que les fils... pas oublier, ils sont dans l'espace. Oui. Donc, quand on est notre perception, fait que on aplatit l'espace selon l'endroit où on est, on a l'impression que le mot entier est barré parce que on a le fil devant les yeux. Donc, ça dépend vraiment où on se situe dans l'espace.
Oui.
Tout ça pour dire que ce bonhomme traverse par hasard, ici l'espace dans l'exposition. J'aimerais bien que tu nous parles aussi un petit peu de la dernière série, une des séries dont on n'a pas encore parlé, c'est celle qui s'appelle There Are No Weak Paradoxes. Peut-être tu peux nous parler tout d'abord de ce titre qui est déjà très énigmatique.
Oui. Alors je suis très attirée par la logique, mais parce que je suis attirée par les bords de la logique, là où la logique perd sa structure et sa puissance. C'est le paradoxe, c'est très intéressant pour moi. C'est un peu similaire comme les mots barrés, peut-être. Il y a quelque chose là, on ne peut pas... ça existe, ça attire de l'énergie. Et je pense que c'est vraiment ainsi qu'avec les paradoxes, ils ne pensent jamais être faibles. Ils sont toujours puissants parce que ce n'est pas la puissance du paradoxe, mais c'est la puissance de toute l'attention qui est attirée par le paradoxe. Parce qu'on ne peut jamais le mettre en calme, parce que ça reste toujours ouvert. Alors c'est un peu la qualité que je cherche dans mes œuvres, c'est en philosophie c'est le paradoxe.
Donc une tension.
Une tension et un mouvement. Et de savoir que nous sommes responsables, comme personne qui le perçoit, je suis responsable aussi, je fais part de la production du sens. Et on le sent encore mieux quand c'est un paradoxe ou quand c'est pas une linéarité de sens là-dedans. Mais...
Alors ça, c'est quand même très intéressant ce que tu viens de dire, qu'on est responsable de la production du sens. Donc je pense qu'on est effectivement là aussi dans un des fondements de ton travail. C'est-à-dire que tu amènes les spectatrices et spectateurs à un endroit où on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'on voit? Et du coup, on se rend compte que c'est nous qui créons le sens.
Oui. Et je pense que c'est important de dire que c'est la responsabilité, mais c'est aussi la fascination. Quand une pièce est tellement réduite, quand on voit c'est qu'un bout de papier ou un fil qui traverse le coin, c'est plus facile de voir qu'il n'y a pas de black box médiatique qui crée quelque chose de grand, mais c'est nous. Alors on voit que c'est très peu de matériel, il n'y a pas, il n'y a rien qui est caché, une structure qui produit, mais c'est un bout de papier, un peu de fil, okay, quelque chose. Et quand on est fasciné, aussi c'est notre fascination de notre propre perception. Et ça, je veux dire ça parce que ce n'est pas seulement la responsabilité qui est des fois lue comme quelque chose qui a un grand poids et qui est lourd. C'est aussi la fascination qui est très libre et qui nous donne de l'énergie.
On peut dire aussi le plaisir.
Le plaisir.
Le plaisir, ouais. de découvrir.
Oui.
De l'oreca.
Oui, et c'est aussi la découverte de nos possibilités qu'on a avec la puissance des pensées, avec la puissance des sens et de les faire combiner, d'ouvrir des autres sentiers, de les mettre en combinaison plus riche encore.
Et donc, There Are No Big Paradoxes, c'est une série de 4 dessins, dont une est un peu plus espacée des autres, mm-hmm. et qui est aussi une installation.
Oui.
Peut-être tu peux nous parler un peu comment apparaissent ces ronds et pourquoi un de ces dessins se détache des autres et où finalement la langue n'apparaît plus. Parce que oui. Les autres ronds, ils sont associés à une phrase, alors... D'abord, peut-être une petite description de ce que c'est, et puis aussi comment ces phrases ont apparu par rapport au dessin.
Oui, oui. Alors, c'est de nouveau que j'invite une complexité que je ne pourrais pas inviter avec mes mains et dessiner. Je mets du pain sur mon ventre ou sur mon corps. Et...
Donc, tu mets de la peinture sur ton corps, c'est des empreintes.
Oui, oui. Je me mets sur ce papier. Alors, c'est une trace que j'ai touchée. J'ai touché avec mon corps, j'ai touché ce papier. Alors, c'est le plus direct possible. Et c'est vraiment l'échelle 1 sur 1. Peut-être la plus sûre échelle 1 sur 1 qui existe. Et puis, j'ai surtravaillé ces empreintes de peau pour lui donner une spatialité, un corps, et que ce sont des cercles parfaits de différentes largeurs et qu'il devient presque corporel, rond et avec qu'ils sont... capable d'attirer du lumière et d'avoir créé l'ombre et tout ça. Alors ça, c'est une densité et j'étais aussi fascinée par les détails, parce qu'on voit tous les pores et tous les petits cheveux que je ne savais même pas que je les avais dans cet ordre. Et puis, c'est un acte très, très physique et ça demande du temps. Et en arrière, dans ma tête, il se forme des phrases. Mais c'est intéressant de travailler avec la langue qui n'est pas au premier pas, qui n'est pas observée et que j'ai vraiment, je cherche activement la linéarité du langage. Mais ça crée en arrière, et tout à coup, il y a des phrases qui me surprisent avec leur condensité.
On dit leur densité.
Densité et avec leur sens. Et des fois, quand je pense qu'il y a une belle attraction avec cette trace en haut, je les mets. Alors, il y a trois dessins. Qu'il y a cette trace et cette phrase en interaction. Et puis la dernière, comme tu as dit, qui est un peu plus allongée, il n'y a pas de langage. Alors, il n'y a pas de langage. Alors, avec les trois premiers, je fais la combinaison entre la visualité de la trace et la visualité du langage, qui a même aussi un sens, qui crée un sens. Et avec le dernier, pas de langage, seulement la trace, mais je prends une autre direction pour créer, ouvrir des autres un niveau de rencontre et de faire part, hein, de inviter le spectateur, c'est que je laisse dépasser le dessin avec un fil noir qui a une distance de quelques centimètres parce qu'il est sur
une bobine. À la base, il était posé sur une bobine, donc du coup, il fait des boucles.
Oui, mais premièrement, il est sur...
Sur une aiguille.
Une aiguille, et c'est une aiguille normale.
À coudre,
qui est un peu plus long. Et ça dépasse le dessin sur une autre aiguille. Et il est sous une tension forte. Et puis, il entre sous le dessin. Alors, c'est... quelque chose que normalement ne passe pas, qu'on se demande qu'est-ce qui est le derrière, l'arrière du dessin. Et puis, au centre, il sort avec ce mouvement que tu as décrit, qu'il y a les boucles, parce qu'il était très avec une tension sur la bobine. Alors, il y a ces boucles qui nous... qui ont l'air d'être un peu de l'eau qui coule ou le pipi qui coule. Et ça entre aussi au sol, il y a un verre à boire, avec là-dedans il y a de l'eau. Et là, dans l'eau, la fin de ce fil fait son dessin dans l'eau, ses mouvements dans l'eau, c'est ça. Alors je fais une partie le mouvement vers le langage, en combination avec la trace. Au premier, je vais vers l'espace et je vais vers la corporalité et vers les éléments avec l'eau et le verre et tout ça.
Merci beaucoup, Sandra Böschenstein. Donc, c'est une exposition à découvrir à la Maison Heidelberg et nous allons continuer cette conversation par la suite au cours des prochaines semaines. À bientôt!
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadia Lichtig.